Morey Live présente
Joey O'B.
Joey O'B.
Joey.
Mon cher Joey, en ce mardi, comment ça va?
Yes, sir. Ça va bien, Dom, toi?
Très bien. De quoi tu nous parles ce matin?
Écoute, je suis moins dans le niveau de l'actualité, malgré que c'est quand même assez pertinent. C'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur, par définition. J'ai vu passer ça hier, en fait. Ça, j'aime beaucoup écouter, comme toi d'ailleurs et beaucoup d'auditeurs, l'émission de Stéphane Bureau à Télé-Québec. Une époque formidable qui amène beaucoup de sujets. Puis je te dirais, contrairement à la majorité des émissions style talk show, discussion, je pense en est une des meilleures qu'on a présentement, alors qu'il ne fait que sa job. Là, c'est ça qui est le plus drôle là-dedans. Hein. On ne sait pas du super effort. Mais il a fait un segment qui est sorti hier sur les réseaux sociaux qui s'appelle « Homophobie au Québec. Pourquoi ce retour en arrière? »
Je ne sais pas si on a des extraits de ça, d'ailleurs. Je sais que tu en avais envoyé à Dom. Je ne sais pas son où. Je ne sais pas quand tu veux les jouer.
Dom Dumas s'est censé le savoir. Fait on s'en est parlé un peu avant.
Call les shots et Dan part le gun.
Yes, parfait.
Moi, j'ai tes extraits. Fait que tu as juste à me dire extrait 1, extrait 2, j'ai les.
Parfait. Fait que c'est ça. Fait qu'en gros, pour mettre un peu en contexte, il y a un an, je dirais jour pour jour, en janvier 2025, Gris Montréal, en fait, qui est comme ce qu'on appelle le groupe de recherche et d'intervention sociale, qui est un OBNL, qui c'est ça qui parle beaucoup d'enjeux LGBT, tout ça, ils ont fait une étude sur les jeunes au Québec, les jeunes adolescents, gars comme filles, partout à travers le Québec et pas seulement à Montréal, pour savoir si au niveau de l'acceptation de l'homosexualité au Québec, comment ça va en 2025. Et ils ont découvert, en fait, l'étude qu'elle nous montre, c'est qu'il y a une montée d'un malaise, on dit bien, par rapport à l'homosexualité. Mais encore là, on se dit, OK, un malaise, par rapport à quoi? Et à l'époque, justement, il y a un an, quand cette étude-là a été faite, même pas une semaine ou deux avant même que l'étude complète soit publiée, Gris Montréal fait une conférence de presse durant les médias, sa gueule, ça tombe aux conclusions tout de suite, et ça dit pas mal la même chose que l'extrait qu'on va vous aller entendre, le premier extrait numéro 1 à l'instant.
Avant, l'éducation, ça venait de la famille et de l'école. Grosso modo, c'était les deux piliers.
Maintenant, quand vous avez parlé des réseaux.
Je suis obligée.
Oui.
Je suis obligée.
Les vilains réseaux.
Mais les vilains réseaux sont tellement présents que dans les questionnaires, les jeunes nous citent leurs influenceurs. Si vous voulez savoir ce que je pense de l'homosexualité, demandez Andrew Tate, qui est une figure du masculinisme. Donc, on ne peut pas faire abstraction des réseaux.
Donc, un individu ou deux hyper influents sont capables de changer une culture.
Mais il fait tellement des mules, oui.
Voilà. C'est un concept qu'on appelle la panique morale, en fait, où une minorité va devenir au centre de toutes les discussions.
Et c'est une panique morale qui est totalement infondée?
Absolument. L'heure du compte, par exemple, on parlait des drag queens. Barbada fait l'heure du compte depuis plus d'une décennie. Ça
n'a
jamais
dérangé
personne.
Soudainement.
Tout d'un coup, ça devient, mon Dieu, nos enfants sont en danger. Mm-hmm.
Donc, ce que vous entendez, c'est Mme Marie Ouzeau, qui, elle travaille à Gris-Montréal, puis avait essentiellement dit la même chose, il y a un an, elle l'a répété, bien évidemment, à l'émission de bureau. C'est qu'en fait, c'est que la raison de ce supposément malaise-là serait ce qu'on avait entendu dans le fameux documentaire Alpha, il y a un an et demi, Andrew Tate, l'extrême droite, les masculinistes, attention, les barbares descendent des collines pour aller chercher nos enfants, parce qu'ils sont rendus de plus en plus homophobes. Et je trouve tellement que c'est une réelle preuve, sans surprise, bien évidemment, de ma part, mais d'une incapacité d'introspection. Parce que, sérieusement, puis je l'ai lu, la fameuse étude de Gris Montréal au grand complet, du début à la fin, puis même je pense que Dom Dumont avait parlé dans sa Légion à l'époque, il y a de ça un an, tout ce qu'ils disent, c'est justement, il y a une montée d'un malaise chez les jeunes du Québec. OK, parfait, clairement, c'est démontré. Il y a un malaise par rapport à l'homosexualité. Mais quelles sont les sources de ce malaise-là? Ça, il n'y a eu aucune question dans l'étude par rapport à ça. C'est-tu un malaise purement de l'homophobie pure qu'on veut combattre? Est-ce que c'est un malaise qui a un fond social, un fond culturel, un fond religieux? Ou ça se peut peut-être que c'est juste des ados de 15-16 ans, de secondaire 3, secondaire 4, que, écoute, moi, j'ai été dans le placard tout au long de mon secondaire, il y a 15 ans de ça, et j'avais des amis. Est-ce qu'il m'aurait accepté si j'aurais fait mon coming out? Oui, mais c'est sûr que sur le coup, eux autres même, il y aurait eu un malaise. Puis c'est pas parce que c'est des gens qui auraient été homophobes, c'est vraiment parce que justement, ils ont 15-16 ans. On assume que tout le monde a une mentalité de personne de 30-35 ans. Mais non, ça reste des jeunes. Donc c'est ça, je trouve que l'étude manque beaucoup là-dedans. Et très rapidement, ces organismes au BNL-là, très militants, s'en vont automatiquement, font du coq à l'âne, tombent directement dans le boogeyman, si je pourrais appeler, en traitant Andrew Tate, extrême droite, et masculiniste
Tate,
comme la cause de tout ça.
Andrew Tate qui n'est pas connu. Là. Au moins, Andrew Tate, là, je le crois à sa rue, je ne sais même pas c'est qui. T'sais, je veux dire, ça ne m'intéresse pas, puis je ne le reconnais pas, je ne sais pas c'est qui. Donc, ultra-généralisation. Mais ce sont des milieux... C'est un milieu de gauche, donc un milieu woke. Et il y a des pans de cette question-là qui sont pas auscultés. Qu'on pense par exemple à la tradition, puis je vais te lire deux extraits d'un rapport qui a été écrit sur la perception qu'ont les nouveaux immigrés par rapport à l'homosexualité. Donc, le poids des traditions et de la religion. Pour beaucoup de familles de première génération, les valeurs sont fortement ancrées dans des interprétations traditionnelles de la religion, qu'il s'agisse de l'islam ou du catholicisme très présent en Amérique latine. Ces doctrines ont historiquement perçu l'homosexualité comme un écart par rapport à la norme familiale. Dans les cultures latino, par exemple, le concept de machisme valorise une forme de masculinité traditionnelle très rigide. De la même façon, dans beaucoup de familles immigrées, la survie et la cohésion du groupe passent par la reproduction du modèle familial classique. Tout ce qui semble s'en éloigner peut être perçu comme une menace pour l'unité de la famille. Ça, c'est important à aller voir, justement, les immigrés de première génération, gars et filles, musulmans et les catholiques traditionnels qui viennent du Pérou, du Chili, peu importe, de l'Amérique latine. C'est très important, ça, me semble. Joey, qu'est-ce que t'en dis?
Absolument. Puis écoute, tu m'enlèves les mots de la bouche. Je vais skipper à mon deuxième extrait tout de suite. Ça rajoute au complément du rapport que tu viens de lire. C'est un extrait justement de l'émission de bureau de Nabil Amrouahi, qui est un jeune homme gay, médecin d'origine arabe, qui est beaucoup populaire sur TikTok. Personnellement, je le connaissais pas. Je l'ai découvert dans l'émission de bureau hier. Puis il y avait un extrait par rapport à lui, à sa réalité en tant qu'homme gay mais arabe. Puis c'est ça, on passe au deuxième extrait.
L'idée que l'homosexualité est très acceptée, encore une fois, pour ne pas minimiser le vécu de aucun de mes confrères gays ou LGBT, c'est surtout basé sur l'expérience d'une personne blanche qui la vit, d'un Québécois pur laine. Mais qu'est-ce qui se passe avec les musulmans? Qu'est-ce qui se passe avec les noirs? Qu'est-ce qui se passe avec les femmes trans noires? C'est double tabou. C'est comme t'es arabe et t'es gay, t'es musulman et t'es gay.
Mais double tabou au sein de la communauté arabophone ou de façon générale au Québec?
Quand on fait partie de plusieurs minorités, quand t'as l'intersectionnalité de plusieurs identités, tu vis la discrimination de chacune de ces identités. Donc je me suis fait rejeter par des blancs parce que j'étais arabe, par des arabes parce que j'étais gay, par des gays parce que j'étais musulman. C'est vraiment... je suis une balle de tennis, là.
C'est super intéressant, parce que même
très
moi...
Très intéressant.
C'est pas un secret. Moi, je suis ouvertement gay depuis de nombreuses années, mais tu sais, ça reste que je suis un gars... Tu sais, je suis un Québécois pur laine, là, de souche, là, sans vouloir être c'est ça, négatif par rapport à ça. Puis c'est vrai que ces réalités-là, même moi qui étant gay, je vis pas ça. C'est vrai que ça challenge beaucoup au niveau des communautés. Puis ma théorie par rapport à ça, c'est par rapport à tout ça. C'est est-ce qu'il y a réellement un ressac ou une certaine remontée de l'homophobie ou du moins d'un genre de recul par rapport aux dérives LGBT? Moi, je suis 100% d'accord que oui. Par contre, c'est divisé en deux aspects. Le premier, on vient d'en parler, je pense que c'est vraiment, il y a une part de ça, c'est relié aux communautés culturelles, communautés immigrantes, c'est ça, tout un plus traditionnel. Puis c'est pas nécessairement de l'intolérance, certaines le sont, mais je pense que c'est surtout, sachant qu'on le voit beaucoup, là, il y a beaucoup de jeunes de plus en plus qui retournent vers le religieux, sont un peu en perte de sens, il y a beaucoup de retours vers les valeurs traditionnelles, on parle des tradwives et tout ça. Donc, est-ce que ça pourrait être même certaines communautés, que ce soit latino, musulmane, arabo-musulmane ou quoi que ce soit, donc ça se peut-tu que les deuxième, troisième génération de cette communauté-là commence à être de plus en plus vocale et eux, sachant que c'est ça, au niveau de l'homosexualité, disons qu'on n'est pas au même avancement à travers le monde que nous autres ici en Occident, donc ça peut avoir un effet. Mais je pense que le principal, puis même, je vois pas nécessairement ça comme une sorte de retour de l'homophobie tant que telle, c'est vraiment le retour du balancier par rapport aux dérives LGBT qu'on a eues depuis les 10 dernières années, par des lobbies justement comme Gay Montréal et plein d'autres gens qui disent de parler en mon nom à moi, que LGBTQ2+, c'est que le monde... ils ont été beaucoup trop vite, ils ont dépassé le gros
dont l'apologie dans certains milieux plus extrêmes, quasiment des opérations sur des enfants, puis c'est pas grave, souviens-toi de la réaction provoquée par l'émission Enquête concernant les opérations sur les enfants. Et la prise de pilules par les enfants.
Et c'est ça. Je pense que c'est là que les gens normaux qui étaient en mode, écoutez, on t'accepte si t'es gay, lesbienne, bisexuel, ils se sont dit, non, là, ça va trop loin. Oui. Là, comme dire en mot, don't touch the kids. Là, puis je suis d'accord avec ça. Oui. Puis là, plusieurs voient ça, que, voyez-vous, c'est de l'homophobie. C'est pas de l'homophobie. c'est juste du gros bon sens. Puis c'est aussi à force d'acheter, il y avait des études aux États-Unis qui avaient des jeunes enfants au secondaire qui commençaient à déchirer des drapeaux arc-en-ciel. Mais c'est sûr que si tu le vois 200 jours sur 365, quel Christi de drapeau arc-en-ciel, puis on te parle de ça tout le temps. À un moment donné, tu pognes ton 2 minutes, tout et tout. Puis je les comprends d'être à bout. Là. Tu penses que c'est au-delà de pas accepter leurs amis qui sont peut-être potentiellement gays ou lesbiennes. C'est qu'à un moment donné, à force de se faire acheter tout le temps avec ça, alors que la majorité des causes sont gagnées du moins en Occident, puis on devrait davantage focusser nos efforts dans les endroits aussi encore très discriminés, comme en Afrique, en Asie du Sud-Est, au Moyen-Orient. Non, on continue à vouloir frapper ce genre de peut-être 5 % de réels homophobes qui existent, un peu comme l'histoire des non-vaccinés durant la pandémie. On veut absolument les avoir, mais finalement, ça faisait l'effet inverse. Donc, il y a un genre de retour de backlash, un retour du balancier par rapport à ça. C'est pour ça qu'on voit d'ailleurs les collectifs féroces, que ce que Johan Power, le gars que le français que tu as reçu, oui, qui partait en France, que Gays Against Groomers aux États-Unis, également le mouvement LGB mondial qui est dans de plus en plus de pays. Tu vois même des gens comme moi, des personnes LGBT, qui sont comme, ce mouvement-là ne nous représente plus, un peu comme le Conseil du statut de la femme, qu'on s'entend dessus, qui ne vous consulte pas beaucoup, mesdames, pour prendre leurs décisions. Bon. C'est le même principe. À un moment donné, il y a comme un schisme qui est en train de se créer. Puis après ça, puis t'as des mouvements comme aujourd'hui, comme Gris Montréal et bien d'autres, que bien évidemment, sachant qu'ils sont dépendants de subventions du fédéral et du provincial, jamais ils vont vouloir remettre ça en question puis de se dire que la job est faite. Ils vont toujours crier au loup puis dire que l'invasion s'en vient pour toujours avoir davantage de financement. Donc, je pense qu'il y a un réel problème par rapport à ça. En tout cas, je voulais quand même l'amener parce que je pense que c'est ça, ça mérite d'en parler. Puis, à un moment donné, tourner autour du pot puis dire que c'est la faute d'Andrew Tate. Puis, regarde, je suis pas fan de ce gars-là. Puis, je pense que oui, les réseaux sociaux peuvent avoir un impact. Mais je pense que clairement, on fait exprès de se mettre des œillères d'en face pour voir la réalité, tu sais.
On a voulu embarrasser les joueurs du Canadien, tout le monde en parle. Hein, gars, ils n'ont pas répondu sur le film, sur les gays qui jouent au hockey.
Ben
donc,
oui,
il y a un malaise. Non, moi, je pense qu'humblement, ils ne l'avaient pas vu. C'est un navet.
Ben non.
C'est un navet, ça. Ils ne l'avaient pas vu. Les gars sont occupés. Ils ont un job, là. T'sais, ils pratiquent puis ils jouent au hockey. Je veux dire, c'est pas de l'amusement, là. C'est un job. Puis si tu ne performes pas, tu vas avoir un moins bon contrat lors de la négo. Les gars se regardant, voulant dire de qui il parle, lui. C'est quoi, là,
cette affaire-là? Perso, j'ai vu, c'est l'algorithme de Facebook qui m'a envoyé des clips de ces séries-là. J'avais même pas écouté. Puis, personnellement, d'autant que le script est assez poche. Par contre, je suis assez content qu'on voit quand même une forme d'homosexualité quand même, je dirais, masculine, là, tu sais, de mon point de vue. Là, on voit souvent, bien évidemment, là, tu sais, une version souvent très efféminée, très, tes cheveux mauves et tout ça.
Ouais, c'est-tu réaliste?
Ben, je trouve que je suis davantage plus à l'aise à avoir une dépiction de relations homosexuelles de cette manière-là que de ce que je vois de manière très stéréotypée depuis les 10 dernières années. Ça fait longtemps, personnellement, en tant qu'homme gay, que j'avais vu ça de cette manière-là. Je trouve
donne-moi un exemple de stéréotype d'il y a 20 ans par rapport à la dépiction, même si c'est un mauvais français, c'est pas du français, là, mais on parle pour se comprendre, là,
ouais,
de
oui,
cette série-là. Donne-moi des exemples de trucs qui font en sorte qu'aujourd'hui, tu trouves que cette série-là est réaliste dans les scènes d'homosexualité, de rapprochement, on va le dire comme ça, par rapport à il y a 20 ans.
C'est sûr qu'en même temps, c'est ça. Donc, dans le niveau du hockey puis au niveau du sport, je comprends que c'est encore tabou puis c'est vrai que ça ouvre la porte à certains trucs, mais autant que j'ai pas de nom tout de suite à te donner un exemple de série en tant que telle, mais tu sais, je suis tout ouvert, comme tu as dit.
Non, mais des scènes, sans parler de films ou de...
Ben,
des
ça,
scènes
vraiment...
un peu grotesques ou un peu folkloriques d'homosexualité.
C'est souvent, c'est ça, on sort d'un bar gay, tu sais, puis c'est souvent, ouais, c'est souvent des personnes homosexuelles très, très, très efféminées. Puis je dis pas que ces gens-là n'existent pas, il y en a. Par contre, de dire un peu, tu sais, personnellement, puis c'est aucunement pour y envoyer des mauvais commentaires. Moi, je les appelle les Alex Perron de ce monde. C'est Alex Perron, je l'adore. Là.
Ouais,
ouais. Il était dans la télévision québécoise pendant plus
mais
de
20
ans.
Mais il est très coloré, puis il était extraverti.
Exactement.
Puis
dans ton cas, toi...
Moi, j'ai été surpris que tu m'apprennes que t'es gay. Je dis, good for you, parfait. Je dis, c'est pas. T'sais, effectivement, on est tombé il y a 20-25 ans dans le grotesque. Mais la cage aux folles, chez
c'est
Denise,
ça,
l'émission à Radio-Can au début des années 80 avec Christian Lalancette.
Le personnage de Michel dans La Petite Vie, là, Michel, voyons, son
oui,
nom m'échappe.
Exact.
Puis c'est très drôle, j'adorais ça. Mais encore là, c'est ultra stéréotypé. Puis encore là, est-ce qu'il y a des gays qui sont comme ça? Oui, mais est-ce que c'est l'entièreté des personnes
pas
gays ou lesbiennes? Pas du tout. Fait que c'est pour ça que je trouve que c'est un genre de retour aux sources que oui, des gays, ça peut exister, mais justement, qui sont encore masculins puis que tu ne douterais pas quand ils te parlent puis ils te disent deux mots ou dans leur gestuelle, comprends-tu? T'sais? Fait que je pense que qu'il y ait un mélange des deux, je serais d'accord avec ça, mais qu'on monte juste d'un seul côté, je pense que c'est pas nécessaire.
C'est son le folklore et c'est son la... la généralisation.
Absolument. C'est juste en terminant, Doom, c'est ça, t'as hors sujet complètement, faire une plug finale, tu sais, on s'en était parlé
quelques semaines. Oui, avec Joanne, le 20e anniversaire, raconte.
Exactement, c'est ça, notre événement pour le 20e anniversaire du documentaire d'Illusion tranquille, notre soirée projection-discussion qui est ce vendredi, le 13 février à la scène Le Bourgneuf avec Joanne. Donc, on réécoute une version updatée de l'Illusion tranquille avec les stats du jour, version 2025-2026. On fait un panel avec Joanne ensuite pour parler à quel point le documentaire est encore aussi d'actualité 20 ans plus tard. Donc, c'est à la scène Le Bourgneuf à Québec. Vous pouvez prendre vos billets en allant sur tous les réseaux sociaux ou sur le site de Génération Mouvement Génération Ambition. .org, puis également fouiller partout sur nos réseaux sociaux, même je pense notre page de Yann et Frank, j'ai partagé des trucs par rapport à ça, donc pour prendre vos billets, fait qu'au plaisir de vous voir là.
Très bon, merci beaucoup Joey, très bon ce matin.
Ça fait plaisir.
Bye.
Bye bye.
Quasiment 8 heures pile. Qu'est-ce que t'en penses de ça, de le propos de Joey? J'ai aimé ça. Hier, il me raconte sa chronique, j'ai pas trop compris ce qu'il voulait, j'ai dit, je te fais confiance Joey, tout ça. J'ai parfaitement compris le point de Guiri, qui est un groupe bon financé, subventionné, tout ça, mais qui omettent sciemment ou pas une réalité par rapport à l'immigration. Les nouveaux arrivants qui arrivent ici, effectivement, peuvent éprouver certains malaises. Des nouveaux arrivants qui arrivent de cultures plus traditionnelles. Oui, papa, maman, pour le jeune musulman et pour le jeune catholique. Donc, il y a un malaise par rapport à l'homosexualité. Mais dans la société d'accueil, ici, on est ouvert et on intègre. Il y a un clash, Dan. Non? C'est sûr qu'il y a un clash.
Il y a sûrement un clash, mais pas juste avec les nouveaux arrivants. Là. Souviens-toi de l'élection provinciale 2022. Les commentaires qu'on recevait concernant Éric Duhem.
Oui. Oui.
Dans notre...
Je l'aime, mais...
Je peux pas voter pour le Parti conservateur. C'est pas vrai que je vais voter pour un gay. J'ai un gay, là, parce que...
Non. Mais c'était beaucoup « je l'aime, mais... »
Ouais.
Hein? Ben, dans Arthabasca, Dan,
on a même
été.
Eu...
Dans
on a...
Arthabasca, cet été, je sais. En a lu des
Il y a même du monde qui nous a dit qu'il avait voté pour le Parti conservateur avant, dans le temps d'Adrien Pouliot, qu'ils, ils peuvent plus le faire parce que...
Non, ça, c'est dégueulasse.
Puis moi, je pensais que c'était fini, imbécile. Là, tu sais, des...
Il y a de l'homophobie.
Il y en a encore de l'homophobie.
Chez les gens d'une, plus d'une certaine génération, je te dirais.
Sans doute.
Pas dans vingtaine, dans trentaine, des gens plus éduqués, modernes. Mais chez les jeunes d'une certaine génération, c'est pas de même, ça marche.
Tu sais, il y a beaucoup de monde qui...
Sont combien, Dan?
Ils sont pas
Est-ce
beaucoup.
Est-ce qu'on grossit le phénomène?
Sont
Est-ce
pas
qu'ils
beaucoup.
Sont vocaux?
Et je pense qu'une grande partie des gens qui sont homophobes aujourd'hui, c'est parce qu'ils veulent pas se l'avouer à eux autres que... quand ils regardent Heated Rivalry, faut qu'ils soient seuls à la maison.
On évolue. Puis c'est vrai aussi qu'il y a eu un délire quand même concernant les... voyons. Les gars qui se déguisent en filles là, pour aller lire des histoires. Comment ça s'appelle?
Les dragues.
Pas des dragues. Ouais, il y a un délire quand même là-dessus. On va se le dire. Je pense qu'Éric Lavoie aussi. Là.
Ben,
Éric Lavoie, il a fait quand même beaucoup de millages là-dessus aussi.
Mais moi, j'ai jamais compris.
Ouais, ça, je sais. T'avais tenu position
j'ai là-dessus. J'ai l'impression que les gens ont oublié leur jeunesse.
Puis les gens ont mélangé aussi, là. Drague égale gay. Non, drague, c'est du
ouais.
C'est du théâtre, c'est du burlesque, c'est du...
Mais tu sais, beaucoup de gens...
La surexagération. C'est... comment il s'appelait? Jean Gilda.
Ben, c'est ça.
C'est Jean Gilda des années 50, en couleur.
Ouais, voilà. Parce que moi, ce que je disais à l'époque, c'était, voyons, s'il y avait une drag queen qui était venue à mon école quand j'étais en 5-6e année, ça aurait été l'enfer à quel point on aurait eu du fun. On aurait trouvé ça drôle, on serait amusé.
Jean Gilda était des années 70 à TV.
Ben oui.
Quand je regardais Symphorien avec mon père, ma femme bionique, à un moment donné, il y avait Jean Gilda le dimanche soir au beau dimanche. Un gars déguisé en fille en talons hauts qui se maquillait et qui était beurré à grandeur. Mais Jean Gilda là, fait partie de l'histoire du showbiz québécois. Là. Jean Gilda, un monsieur qui se déguisait en femme. C'est tout. Il y a quelqu'un qui me parle de Priscilla. Ouais, Priscilla, c'était plus un sketch.
Ouais,
mais
Priscilla,
Jean Gilda, c'était son métier.
Oui, ouais, c'est ça. C'est comme...
Le nightlife de Montréal des années 50, 60, 70. Jean Gilda était une superstar. Drague.
Comme Barbada.
Il était travesti dans le temps.
Barbada, elle, c'était ça. C'était...
C'est ça.
Ben, Mona de Grenoble. Ça, c'est des vrais drag queens.
Voilà. 8h02 et vous êtes à Radio X.
Morée.
Quelque chose à dire?
Ça va bien aller.
Tu veux réagir? 418-670-9098. Radio X.